Bonsoir, comment allez-vous ? Hier, avec trois ados dans la voiture, chics et joyeux, nous nous rendions à une fête. Notre seule inquiétude était d'arriver à trouver une place de stationnement. Le coin était blindé et nous tournions depuis un bon moment, quand tout d'un coup, nous apercevons une belle place, sauvée. Sauf que la voiture juste devant nous l'a prise. Enfin, pas la voiture toute seule, son chauffeur, qui tout d'un coup s'est fait agonir par mes jeunes. Mais qui c'est ce mec ? T'as vu sa gueule, son costume pourri, sa caisse pourrie ? J'ai immédiatement rétorqué qu'on ne savait rien de lui et qu'il était probablement gentil. Et qu'il venait de faire ce que, précisément, nous cherchions aussi à faire, se garer. Ça, c'était mon discours d'adulte parfaite. Mais en secret, j'avais aussi un peu envie de le buter. Moi qui me suis souvent demandé ce qu'avaient bien pu faire certaines catégories d'humains pour déclencher leur rejet aussi injustifié que dramatique, aurait-il, comme mon automobiliste d'hier, obtenu quelque chose qui faisait envie à leur bourreau ? Et si oui, laquelle ?
Bonjour, je m'appelle Anouk, j'ai 4 ans et demi, j'aimerais savoir pourquoi je suis timide. Merci, à bientôt !
Bonsoir Anouk, cette question me laisse perplexe parce que quelqu'un qui téléphone et qui pose une question comme ça, claire et nette, haut et clair, ne semble pas timide. Et pourtant, docteur Michael Larard, vous êtes pédopsychiatre, Anouk dit « Pourquoi je suis timide ?»
Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est qu'elle a peut-être une timidité sélective. Il y a des enfants qui sont timides avec les enfants, mais pas avec les adultes. Il y a des enfants qui sont pétrifiés devant les adultes, même gentils et bienveillants. Et puis il y a des enfants qui ont une timidité plus globale. Ça, c'est le premier point. Mais d'une façon générale, pourquoi on est timide ? Il y a des éléments, des clés qui sont bons de comprendre pour pouvoir s'en débarrasser un petit peu. Souvent, quand les enfants sont timides, les parents disent « je crois qu'il manque de confiance en lui ». Et c'est absolument faux. Ça a l'air d'être ça, mais c'est absolument faux. En réalité, l'enfant timide est un enfant qui se met trop de pression. C'est pas qu'il n'est pas assez bien, c'est qu'il pense qu'il faut trop bien faire. Il pense qu'il faut performer en permanence. Il pense que pour parler avec les copains, il faut pas parler de n'importe quoi et de la pluie et du beau temps, il voudrait dire des choses extraordinaires. Si je vous dis, dites-moi tout de suite quelque chose de passionnant et d'extraordinaire...
Ça bloque.
Exactement. Donc c'est parce qu'il se met trop de pression, c'est parce qu'il a une exigence de performance trop grande, c'est aussi parce qu'il veut trop séduire, trop plaire... qu'il est paralysé et qu'il n'arrive même plus à dire des choses simples. Donc si on veut aider en réalité un timide à dépasser sa problématique, il ne faut pas le pousser à être plus compétent, plus drôle, avoir plus de sujets. Il faut bien lui faire comprendre qu'il a le droit de ne pas plaire aux gens, qu'il a le droit de connaître des échecs, qu'il peut aussi dire des choses inintéressantes, qu'il n'a pas besoin de performer et qu'en réalité, la clé, c'est dans la sévérité qu'il a à son égard. Si toi, tu es cool avec toi-même et que tu ne juges pas sévèrement ce que tu vas faire ou dire, alors les choses devraient se passer sympathiquement.
Vous pouvez faire réécouter cette réponse du docteur Michael Larard à tous les parents timides et peut-être même aux timides eux-mêmes sur franceinter.fr. Ce soir, dans les petits bateaux, nous évoquerons les croyances des hommes préhistoriques. Nous répondrons à Zoé, qui a demandé jusqu'à combien de mètres peut monter une tour en caplat, et à Julie, qui a demandé pourquoi la Joconde était si célèbre.
Bonjour, je m'appelle Méline et je voudrais savoir pourquoi nous mettons des pesticides de partout. Merci, au revoir.
Pourquoi nous mettons des pesticides de partout ? Lydia Bourguignon, vous avez écrit avec Claude « Le sol, la terre et les champs » et c'est aux éditions « Sang de la terre », le sait-on seulement.
Alors bonsoir Nelly, pourquoi on met des pesticides partout ? C'est parce que nos sols sont malades. Et en fait, les plantes, comme les sols ne sont plus vivants, les plantes sont malades. Et elles se font piquer par des insectes ou elles se font attaquer par des champignons parce que dans le mot pesticide, il y a les insecticides, il y a les fongicides, il y a tous les produits qui tuent. Et donc pour protéger ces plantes pour qu'elles arrivent jusqu'au bout, on est obligé d'utiliser tout ça.
Sinon les plantes seraient malades.
Sinon les plantes seraient malades et n'iraient pas jusqu'au bout.
Et qu'est-ce que vous appelez, Lydia Bourguignon, un sol pas vivant ?
Un sol pas vivant, c'est un sol qui n'a pas de vers de terre, qui n'a pas de petits insectes, de petits animaux. Et à ce moment-là, et comme il n'est pas vivant, C'est le sol qui normalement nourrit la plante. Et quand un sol nourrit bien une plante, il va lui faire par exemple la membrane, la peau, comme notre peau à nous, qui va être beaucoup plus résistante, donc qui sera moins attaquée par des pucerons ou par des champignons. Donc on aura beaucoup moins à utiliser.
Il faut que le sol dans lequel se trouve la plante soit entre guillemets habité.
Habité, exactement.
Et ce sont ces habitants qui forme une carapace à la plante qui lui permet de se défendre contre les attaquants.
Non, c'est pas vraiment. Ces habitants vont recréer, vont faire un sol vivant. Sur les crottes de ces habitants, on va avoir des microbes. Les microbes vont fournir les éléments. Et ces éléments, par exemple, le calcium, qui est très important même pour nous, hein, pour notre constitution. Si on n'avait pas de calcium, on n'aurait pas de squelette. Eh bien, par exemple, le calcium est très, très important pour la structure, pour l'épaisseur de la membrane des plantes. Donc, quand c'est plus épais, ben, ça s'attaque moins.
Donc, pour répondre à Nelly, comme ce n'est plus dans le sol, c'est dans les produits.
C'est dans les produits. Et ce sont ces grosses multinationales qui sont toujours là derrière en vous disant, mais vous inquiétez pas, on a le produit pour tuer le petit puceron. Et puis après, on aura le produit pour mettre le calcium qu'on n'a pas. Et c'est toujours, pour eux, ils disent que c'est un cercle vertueux, mais c'est pas du tout le cas. L'agriculteur ou le maraîcher, il est toujours obligé d'acheter. Et en plus, ces produits n'auront pas le goût qu'avec un sol vivant.
Et pourquoi ils sont nocifs, ces produits, ces pesticides?
Mais parce que, en fait, alors nous, ce sont des suppositions, hein, parce qu'on n'est pas, on travaille pas là-dessus. Mais par exemple, on prend un exemple sur un insecticide. Ce sont souvent des produits qui sont des bloquants du système nerveux. C'est-à-dire qu'on empêche l'animal, on empêche le petit puceron de bouger, et quelque part, il va mourir de faim puisqu'il ne voudra plus bouger. Et pour nous, on se dit que nous aussi, on est constitué d'un système nerveux. Donc, l'hypothèse, pourquoi il est que mauvais pour la plante et bon pour nous? C'est quand même une réflexion.
À propos d'habitants de la Terre, quand nous étions enfants, nous faisions des concours de vers de terre à qui trouver le plus long. Je ne sais pas si les enfants de maintenant peuvent faire ça. Alors, je sais bien que ça les passionne certainement moins, mais en trouveraient-ils seulement?
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin.
Qui avaient reconnu Brigitte Bardot ont bien reconnu.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Vous, les enfants, vous posez une question et nous, nous trouvons quelqu'un pour vous répondre. Nous trouvons quelqu'un, pour être tout à fait honnête, c'est Marjorie de Voucou, trouve quelqu'un pour vous répondre.
Je m'appelle Tristan, j'ai 7 ans et je voudrais savoir, est-ce que les hommes préhistoriques avaient des croyances ? Au revoir.
Georges Guy-Escuré, vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Les hommes préhistoriques qui avaient des croyances, demande Tristan.
Alors, la question est difficile parce que croire, c'est en quelque sorte imaginer que l'on sait. Et il est très difficile pour les préhistoriens et les anthropologues de dépister une croyance dans le passé ou de dépister ses sources. L'indice, ce serait la trace d'un acte n'ayant aucune utilité pratique. Mais même alors, a-t-on affaire à une croyance religieuse ou à une forme artistique ? Et ça n'est pas sûr du tout que cette différence ait été perçue très tôt. Nous savons, par exemple, que les premières inhumations connues se situent à entre 90 et 100 000 ans avant le présent. Et ceci évoque déjà une croyance en un au-delà. Mais il y a une part de spéculation, parce que la rationalité technique pourrait être, à la limite, d'enfouir le cadavre parce qu'il, à la fin, qu'il ne dérange pas les vivants.
Oui, c'est absolument, ça peut être par hygiène.
En revanche, si dans les tombes apparaît un stéréotype, une position du corps ou une décoration, la croyance devient probable du fait qu'elle n'a aucune utilisation possible pour l'avenir des hommes qui l'ont ainsi concrétisée.
Donc si ça sert à rien dans le pratique, dans la vie, c'est que ça sert entre guillemets à autre chose de plus spirituel.
C'est un indice. Ce n'est pas une explication, mais c'est pour nous un indice du fait que la croyance à ce moment-là sur un au-delà, sur quelque chose qui dépasse le monde sensible, peut être obtenue. Mais finalement, il n'y a qu'au paléolithique supérieur, c'est-à-dire assez récemment, que l'on a vraiment l'évidence totale, où il n'y a plus aucun doute, avec notamment l'arrivée des Vénus aurignaciennes, qui sont des statuettes de femelles callipyges et qui se répandent à travers toute l'Europe. Alors le fait même qu'elles se répandent comme stéréotype et que ce soit des statuettes, là on sait qu'une croyance est à peu près certaine.
Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est de l'art ? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est soit de l'art, soit de la religion. Comment est-ce qu'on peut savoir ?
Alors, le fait est que pendant très longtemps, les sociétés n'ont pas fait de différence. Donc, c'est aussi ça le problème. Et il y a encore un autre problème, c'est que la croyance nécessite un langage. Pour que la croyance soit autre chose qu'une espèce d'illumination individuelle, d'une imagination, mais à ce moment-là, ce genre de croyance, on peut aussi bien l'imaginer chez un chimpanzé, chez un australopithèque, on peut pas savoir, elle est absolument indétectable. Pour que ça devienne un phénomène social, il faut que la croyance soit véhiculée, fixée, dogmatisée par le langage. Et sur la naissance du langage, nous avons, dans les 40 dernières années, beaucoup reculé les estimations.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que dans les années 60, on imaginait que le pithécanthrope, l'australopithèque, ils avaient évidemment un langage. Et maintenant, petit à petit, on est devenu beaucoup plus prudent. On commence à estimer que le langage se situerait comme phénomène social autour de 100 000 ans. Mais ce sont vraiment des estimations. En gros, je veux dire, c'est question... Alors, les croyances, effectivement, du coup... semble en même temps suivre ce parcours et devenir plus récente dans l'histoire de l'homme.
Vous trouverez les références des ouvrages de Georges Guy Escuré, entre autres les 3 volumes sur le cannibalisme, sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Zoé Char, j'ai 10 ans, et j'aimerais savoir jusqu'à où peut monter la plus grande tour en petite briquette de bois, enfin en petit caplat. Pour dire des marques, merci d'avance et au revoir.
Bonsoir Zoé. Jusqu'où peut monter la plus grande tour en petite briquette de bois ? Kapla, dit Zoé. Frédéric Martin, justement, vous êtes responsable du centre Kapla de Lyon. Peut-être vous pouvez juste préciser ce que c'est que ces petites briquettes de bois avant d'expliquer comment monte la tour.
Ce sont des petites planchettes en pin des Landes, fabriquées en France depuis 30 ans, qui ont un rapport entre chaque dimension au dixième du millimètre, très très précis. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire vraiment des grandes choses superbes.
Donc, elles n'ont pas toutes la même taille, les briquettes.
Si, et en plus, elles ont toutes la même taille.
Elles ont toutes la même taille.
Il y a un multiple entre les 3 dimensions, largeur, épaisseur, longueur.
Ah oui.
Très, très précis.
Alors, est-ce que vous pouvez lui répondre, Zoé ?
Eh bien, oui. Parce que nous, on a fait la tour la plus haute du monde, il y a 2 ans, à Lyon. Et on est monté jusqu'à 18 mètres. Et en calculant un petit peu, après avoir écouté un peu sa question, je me suis rendu compte qu'on pouvait monter vachement haut. Si on veut monter très très haut, il faut faire des tours légères. Donc il faut poser des planchettes debout.
Ah, j'aurais dit le contraire.
Et non, c'est connu dans le bâtiment. Et donc chaque planchette debout peut tenir presque 1000 kilos, une tonne de pression, genre le poids d'une petite voiture.
Ouais.
Nous, pour faire notre construction de la grande tour, réellement le poids de la tour tenait sur une dizaine de planchettes au centre de la tour.
Ouais.
Et donc on pourrait tenir presque 10 tonnes, quoi, donc réellement. Et si on veut monter comme ça très très haut, on pourrait construire 100 tours comme celle qu'on a fait nous, avant que les premières planchettes s'écrasent sous le poids.
Oui, mais Frédéric Martin, là, vous me parlez de poids. Mais, et niveau équilibre, parce que c'est pas le tout que ça supporte le poids, faut pas que ça se casse la figure.
Plus on monte, plus il faut faire large. La tour de Dubaï, Burj Khalifa, c'est un peu le même principe. On monte en pyramide, très très fine, un peu comme la tour Eiffel, mais très très haut. Plus on va aller haut, plus on monte un peu en pyramide. Ou en grande tour, un peu comme des gratte-ciels. Mais les pyramides vont encore plus haut.
Plus il faut faire large à la base.
Bien sûr. Avec les capacités du Caplar, on pourrait monter 2 km de haut avant que les premières planchettes s'écrasent.
Mais comment ça tiendrait de 2 km ?
On n'y arriverait pas, bien sûr, mais ouais. Théoriquement, c'est ça.
Mais la question de Zoé, c'est qu'il faut que ça tienne.
Ah ben si, il faut que ça tienne. Il me faut trouver moi une salle de 2 km de haut et je la fais.
Dans laquelle il n'y a pas de vent ?
Voilà. Moi, je veux bien essayer 50, 100 mètres. Hein. Moi, je suis persuadé que 20 mètres, celle qu'on a fait à 18 mètres, c'est petit.
Et elle est où cette tour de 18 mètres ?
Ah ben elle est cassée maintenant. Ça prend trop de place.
Ah oui.
C'est de l'art éphémère. On ne peut pas garder une grande tour comme ça, ça prend beaucoup trop de place.
Mais ça ne tomberait pas.
Ça tomberait pas.
On ne vous les collait pas, vous les posez.
Jamais collé, il n'y a pas de point de fixation et nous on ne les colle jamais.
J'aime bien ce jeu parce que quand on joue avec un enfant, on s'amuse autant que lui. Aujourd'hui, 23 septembre, c'est le jour de l'automne. Et c'est aussi le jour de l'équinoxe, équi égale nox nuit. C'est-à-dire que les jours sont aussi longs que les nuits, ou les nuits aussi courtes que les jours, vous me suivez ? C'était Jane sur France Inter, Françoise Barbegal, vous la connaissez au petit bateau. Elle est responsable, entre autres, de l'association Coreta, comment regarder un tableau.
Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 8 ans, j'habite à Auray et je voudrais savoir pourquoi la Joconde est-elle aussi célèbre. Merci, au revoir.
Bonjour Julie, dis donc, t'habites une jolie ville, avec une jolie rivière. Alors pourquoi la Joconde est-elle aussi célèbre? François Barbegal, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Parler d'art aux enfants », édité chez Adam Biraud, et puis vous enseignez à l'école du Louvre. La Joconde, elle est au Louvre d'ailleurs?
La Joconde est au Louvre, c'est là la grande star du Louvre, ah ouais, bien sûr. L'itinéraire est fléché d'ailleurs pour arriver à la Joconde, sans entrave. Et elle est dans les collections françaises depuis fort longtemps, puisque Léonard de Vinci ne l'a jamais livrée à son modèle. Il a commencé le tableau probablement vers 1503, et puis il l'a gardé. Et la pauvre Mona Lisa n'a jamais eu son portrait.
Elle attend toujours.
Ouais. Et quand Léonard de Vinci est venu s'installer en France en 1516, à la demande de François Ier, eh bien il avait son tableau dans ses bagages. Et 3 ans après, à sa mort, eh bien François Ier a acquis la Joconde de ses héritiers.
Ça arrive souvent, Françoise Barbegal, qu'un peintre ait comme ça une espèce de tableau chéri qu'il emmène partout avec lui et dont il ne veut pas se séparer.
C'était peut-être très, très spécial avec Léonard, parce que Léonard de Vinci a peint assez peu de tableaux.
Ah oui.
Il a peint une douzaine de tableaux, peut-être. Et ces tableaux étaient comme des étapes, finalement, dans ses recherches scientifiques. C'était comme des espaces où il concentrait toutes ses réflexions sur le monde. Donc la Joconde est devenue une sorte de noyau, hein, qui représentait à un moment donné de sa vie cette conception du monde et d'un être humain parfaitement relié justement au reste de la nature. On voit derrière la Joconde toutes ces petites routes, ces chemins, ces ponts qui vont jusqu'à l'horizon. On sait que depuis tout être humain, on peut concevoir le monde pratiquement jusqu'à l'horizon, jusqu'à l'infini.
Ah oui.
Elle est reliée à ça aussi parce que il n'y a pas de, je dirais, de différence de nature finalement entre elle et la végétation, les arbres, le ciel. Tout est homogénéisé par une sorte de brume. Hein. C'est l'air finalement qu'on pourrait presque respirer dans le tableau. Et puis en même temps, justement, parce qu'il y a cet air qui adoucit énormément les contours, à tel point qu'on n'a pas le sentiment réellement qu'il y a des contours, c'est plutôt un passage des formes claires aux formes sombres qui donne le sentiment qu'elles sont plus précises en réalité qu'il ne les a lui-même disposées sur le tableau. Eh bien, on sait que tout peut changer. D'ailleurs, Léonard le disait dans ses notes, l'heure qu'il préférait représenter sur ses tableaux, c'était le crépuscule.
Ah, donc quand ça change.
C'est-à-dire quand ça change. Et c'était l'essence même, on pourrait dire, de la vie humaine. Léonard était un scientifique.
Un chercheur.
C'est un chercheur. C'est un homme qui a montré dans ses tableaux autant le doute du chercheur, autant ce qui le fait avancer dans sa quête, que les acquis, finalement, qui peuvent déjà être les siens.
C'est amusant que vous disiez ça, parce que maintenant, surtout, je pense aux enfants là, qui doivent prendre des décisions pour leurs orientations dans leurs études, et puis plus tard pour leur métier. On met quand même deux pistes très différentes, si c'est l'art ou si c'est la technique. Si on est ingénieur, on fait pas de l'art, c'est vraiment, mais très tôt, on leur demande de décider, alors que là, on sépare.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça n'était pas le cas. C'est vrai aussi qu'on arrive maintenant à un degré de spécialisation qui rendrait impossible le fait d'être cet homme universel, bon, qu'était Léonard. Mais tout de même, je crois que pour certains scientifiques, la chose est bien claire aussi. Vous savez, c'est comme, par exemple, l'astronome de Vermeer qui est au Louvre, ou bien le philosophe en méditation de Rembrandt. Ce sont des savants, mais ce sont aussi des savants qui méditent sur le savoir qu'ils acquièrent, et ce sont du même coup des sages.
Les livres de Françoise Barbegal sont plus intéressants les uns que les autres, à retrouver sur le site des Petits Bateaux. Petits Bateaux, émission à réécouter et à podcaster sur franceinter.fr. On participait à ce numéro par ordre alphabétique: Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, Marjorie Devoucou, Eliane Girard et Rémi Sistiaga. Je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.
Merci Noël Bréham. Voici l'actualité du livre pour enfants.